Joseph a été vendu par ses frères à des marchands étrangers, puis vendu par ses marchands en Égypte au chef de la police du royaume, un certain Potiphar. Alors nous connaissons bien les circonstances qui l'ont amené ici. Mais l'homme, le connaissons-nous bien? Alors je vous propose trois étapes pour tenter de découvrir. Tout d'abord, Joseph, dans sa famille, en Canaan, c'est-à-dire Joseph, enfant, ado. Ensuite, Joseph, esclave, en Égypte. Et là, quel esclave, c'est-à-dire quel ouvrier, en quelque sorte. Et puis enfin, Joseph face à la femme de Potiphar. Et là, quel homme. Étape numéro 1, Joseph dans sa famille. Alors jusqu'au terrible moment du drame. Alors le texte nous parle du milieu dans lequel il est né. Un fils parmi d'autres, puisqu'il y en aura 12, un fils particulier, il est vrai, fils de Jacob et Rachel, c'est-à-dire le fils désiré, attendu, d'abord parce que Rachel, il a travaillé, on le sait, des années pour qu'enfin elle lui soit donnée pour épouse, et ensuite parce qu'il faudra encore attendre des années pour que sa bien-aimée lui donne le premier-né, et Joseph précisément. Joseph, il est marqué par la grâce de Dieu accordée à ses parents parce que sa maman Rachel était stérile. Alors sur Joseph lui-même, juste une première info qu'on pourrait dire quasiment sans importance, c'est au chapitre 37 de la Genèse. Je lis le texte. Il avait passé son enfance avec les fils de Bila et de Zilpa, femmes de son père. Il rapportait à leur père leurs mauvais propos. Rapporteur, le petit Joseph. Attitude bien classique pour un enfant. Tout naturellement désireux de se distinguer en mieux, quand c'est possible, par rapport à ses frères. Et puis Joseph ne peut pas ignorer le penchant de son père en sa faveur. Quant à Bila et Zilpa, ce sont les concubines de son père, c'est-à-dire que ni l'une ni l'autre n'est sa maman. Ce qui peut donc lui faciliter ce genre de confidence, rapporter les mauvais propos, et certainement lui garantir, de la part de Jacob, une oreille particulièrement attentive. Bon, ce n'est pas sa faute s'il est né comme ça, Joseph. Personnellement, il n'est strictement pour rien dans les dysfonctionnements familiaux. Mais cela va lui nuire. Et c'est ainsi que le texte nous expose comment, à partir d'un détail comme celui-ci, on peut en arriver à un crime. Alors nous avons enquêté, je n'y reviens pas là-dessus, pour comprendre par quel mécanisme on arrive à cette fin. Bref, rappel. Premier facteur, le favoritisme du père au profit de Joseph. Favoritisme qui s'amplifie avec le temps. Joseph a maintenant 17 ans et Jacob affiche sa préférence pour lui et le distingue de ses autres enfants par un habit somptueux. Second facteur, mais les facteurs s'enchaînent. Conséquence du favoritisme paternel, la jalousie. Ses frères, nous dit le texte, ses frères étaient jaloux de lui. Et la jalousie, elle alimente la haine. Le texte encore nous le dit, ses frères virent que leur père les préférait à eux tous. Alors, ils le prirent en haine. Et c'est ainsi que va naître leur projet de meurtre. C'est là que l'auteur nous laisse entrevoir, parce que c'est notre sujet, deux traits du caractère de Joseph. L'un négatif, l'autre positif. Le négatif. Il tient à un facteur extérieur dont nous avons eu l'écho dans nos études précédentes, mais que nous avions volontairement laissé de côté dans notre enquête. Ouais. C'est comme ça, dans les enquêtes, quelquefois, on a un coupable, on ne va pas chercher plus loin. Hein. C'est que Joseph, il a fait un rêve. Et ce rêve, il le raconte à ses frères. Rien de condamnable en soi, mais quel rêve! Je vous lis le texte. Nous étions, dit-il, en train de lier des gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. Et le comble, un deuxième rêve, dans le même sens, et mettant celui-là en cause toute la famille, c'est-à-dire le père et la mère. Je lis. Le texte nous dit, pardon, le texte nous l'annonce d'emblée, et là, c'est là que je lis, ils ne l'en détestèrent que davantage. Faut-il imputer à l'adolescent un manque de sagesse? Il lui fallut les garder pour lui, bien sûr, ses rêves tenant compte des conséquences prévisibles, quand même, dont il allait souffrir, parce qu'il en souffrait déjà, de la jalousie et de la haine de ses frères, qui, dit le texte, ne pouvaient plus lui parler aimablement. Ainsi, s'agissant de la tunique princière, est-ce qu'il n'aurait pas pu plaider auprès de Jacob en faveur de la paix dans la famille? Écoute, papa, ton costume, il sème la zizanie dans la famille. Donne-moi un jean comme tout le monde. Peut-être Joseph, trop habitué à rouler les mécaniques. Et puis, c'est tellement facile d'accepter les injustices quand c'est à notre profit. Et surtout, s'il nous arrive d'estimer que nous les méritons bien. C'était le négatif, voici le positif. Franchement positif. Joseph est un ado obéissant. Je lis. Jacob dit à Joseph, « Je veux t'envoyer trouver tes frères qui font paître les troupeaux à Sichem. » Et Sichem, je vous le signale, c'est à 60 kilomètres. Joseph répondit, « Eh bien, j'y vais. » Bien sûr, il ne pouvait pas envisager à son voyage une issue aussi tragique. Mais il connaît bien ses frères, Joseph, il les connaît mieux que Jacob, parce que s'il y a des choses que Jacob peut ignorer, pas Joseph, dans leur comportement agressif. De la part de Joseph, aucune réserve, aucune réticence, aucune condition, il ira à Sichem. Elle est comme ça, l'obéissance, elle est belle, l'obéissance ici, parce qu'elle prime sur toute autre considération. Alors, quel jeune homme est-il donc, Joseph? Eh bien, nous venons de trouver là quelques modestes traces dans la période familiale de sa vie. Étape numéro 2. Joseph, esclave en Égypte. Alors, rappelons le texte que je vais lire dans un instant. Dans notre étude précédente, Ce texte nous a conduit à évoquer et à témoigner de la présence de Dieu dans les épreuves de la vie. Aujourd'hui, et pensons-y donc au moment de la lecture, tentons de discerner dans ce même texte quel esclave Joseph a-t-il été chez son patron. L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ainsi, il l'attacha à son service personnel, il l'établit comme intendant sur sa maison, lui confia la gérance de tous ses biens. À partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Sa bénédiction s'étendait sur tout ce qu'il possédait, dans sa maison comme au champ. Alors Potiphar laissa tout ce qui lui appartenait entre les mains de Joseph, ne s'occupant plus de rien, sauf de ses repas. Plusieurs acteurs, en interaction les uns avec les autres, si bien qu'ici, on a l'impression que les rôles s'imbriquent les uns dans les autres. Tentons quand même de les distinguer. L'Éternel, d'abord, il occupe manifestement la place centrale. Non seulement il est cité en premier, mais tout découle de son action, l'Éternel. Et quelle action ? Eh bien, par définition providentielle. L'Éternel fut avec Joseph de sorte qu'il réussissait tout. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Potiphar aussi. Place clairement affirmée, dans la logique de son rôle d'ailleurs. Potiphar, c'est le maître de la maison, ce sont ses affaires. C'est lui le patron. Il prend Joseph à son service, il l'établit comme un intendant, finalement il laisse tout entre les mains, mais c'est lui qui décide. Et Joseph, dans tout ça, sa place, son rôle, son comportement. Cité quatre fois dans ce bref texte, il ne saurait donc évidemment être absent, ni même caché, mais en tout cas, nullement la vedette. Certainement pas. On a l'impression que tout lui passe par-dessus la tête, hein, Joseph. Il apparaît plutôt comme un instrument. Un instrument entre les mains de Dieu, qu'il utilise pour faire réussir son travail. C'est-à-dire que quand Joseph réussit, c'est grâce à l'Éternel. Un instrument aussi, Joseph, entre les mains de Potiphar, qui va profiter à fond de son succès. Succès que lui-même, Potiphar, attribue à qui ? À l'Éternel, pas à Joseph. Un intermédiaire, Joseph. L'Éternel bénissant Joseph pour bénir Potiphar. Potiphar, abandonnant tout à Joseph à cause de la bénédiction de l'Éternel. C'est dans le cadre de ces interactions qu'il faut chercher le rôle de Joseph. C'est donc par déduction seulement, pour l'instant, qu'on peut tenter de discerner son propre rôle, c'est-à-dire ce qui lui est imputable à lui de façon strictement personnelle. Déduction donc. Si l'Éternel faisait réussir et prospérer tout ce qu'il entreprenait, c'est qu'il entreprenait, non ? C'est qu'il accomplissait lui-même une tâche définie. De la même manière, si Potiphar lui confie la gestion de ses biens, c'est qu'il gérait, c'est qu'il savait gérer, et c'est qu'il le faisait même avec une remarquable compétence. Alors, déduction, disons-nous, mais reconnaissons-le, ici, déduction forte. Certes, l'Éternel, Potiphar, sont les maîtres. Mais ni l'un ni l'autre ne font le travail. Certes, Joseph est un instrument, mais un instrument nécessaire, un intermédiaire, mais un intermédiaire essentiel lui aussi. Parce que de l'Éternel à Potiphar, c'est par lui, Joseph, que ça passe. Un maillon de la chaîne, Joseph, mais enlever ce maillon, il ne se passe plus rien. Alors seriez-vous d'accord pour la déduction suivante, puisqu'on parlait de déduction ? Joseph est un esclave totalement dévoué au service de son maître. Le temps ne compte pas, tous les efforts sont faits pour toujours tout bien faire. D'évidence, non ? Car comment son travail aurait-il été remarqué sans cette qualité-là ? Alors certes, l'Éternel faisait prospérer son travail. Mais se peut-il que ce fût à la base, entre les mains de Joseph, un travail bâclé, auquel on consent à contre-cœur, en traînant les pieds ? Et Joseph, il avait quand même bien des raisons de manquer d'enthousiasme. Hein, je me dis que moi, il m'en faut pas tant que plonge le moral. On entend déjà ici le discours si fréquent aujourd'hui, et peut-être aujourd'hui en particulier. On va quand même pas se décarcasser pour un patron qui s'en met plein les poches, pour un salaire de misère. Mais il n'y avait peut-être même pas de salaire pour Joseph, probablement. Hein. Alors comment imaginez-vous l'esclave Joseph ? Bien sûr qu'il souffre encore de l'injustice qui l'a frappé. Bien sûr que gronde encore en lui la révolte contre l'impunité du crime fraternel, même qu'il regrette encore certainement Joseph sa propre bêtise d'avoir raconté ses rêves à ses frères, aggravant la situation. Certes, pensera-t-on, il y trouve quelque avantage quand même. Il jouit d'une certaine liberté d'action, d'une évidente reconnaissance, d'une promotion exemplaire, et probablement d'un meilleur niveau de vie, oui. À partir du moment où il est promu à la responsabilité de l'intendant. Il faut ici tenir compte une nouvelle fois du temps. Il s'est passé des années avant que Potiphar lui abandonne tout. Des années avant même qu'il commence, Potiphar, se rendant compte de ses qualités par le prendre à son propre service. Au fond, et si Joseph, c'est lui qui avait commencé, dès son arrivée en Égypte, dès son intégration à une troupe d'esclaves anonymes, la déduction finale serait alors celle-ci. Si le travail, c'est le travail de Joseph qui a été béni par l'Éternel, c'est le travail de Joseph en premier qui a été observé par Potiphar. Quel homme est-il donc, Joseph ? Le rideau se lève ici lorsqu'on observe l'esclave en Égypte assujetti au travail forcé. La première réponse est dans la qualité de son travail et de son comportement. Dernière étape, Joseph face à la femme de Potiphar. Et là, voici la pleine lumière sur l'homme. Et ce sera aussi là la source de notre exhortation ce matin. Lisons plutôt, c'est au chapitre 39. Joseph était un très bel homme, ayant un beau visage, de sorte que la femme de son maître porta les yeux sur lui et lui dit « Viens coucher avec moi ». Mais il s'y refusa et dit, et là je saute à sa conclusion parce que le thème de la tentation sera une prochaine étude, nous ne le retenons pas ici, je retiens seulement sa conclusion absolument essentielle, « Comment, dit-il, pécherai-je contre Dieu ?» Ah, Joseph, quel homme est-il donc ? La réponse est ici. Joseph craint l'Éternel. Nous ne sommes plus à trouver quelques traces dans son enfance ou dans son adolescence. Nous ne sommes plus à faire des déductions si évidentes qu'elles soient quand on le voit travailler en tant qu'esclave. Non, nous sommes ici dans le domaine de la révélation. Du témoignage, de la réalité profonde, condensé en quatre mots. Comment pécherai-je contre Dieu ? Joseph est l'homme qui craint Dieu. Il le craint d'abord pour le connaître. Bien sûr. Et s'il le connaît, c'est qu'on le lui a fait connaître. Et ce ne peut être quand que pendant son enfance. Bien que le texte ne nous dise strictement rien de Dieu sur toute l'histoire au point où nous en sommes. Et ce ne peut donc être que de Jacob. Ah, Jacob! Avec toutes ses manœuvres, ses laisser-aller, ses lâchetés, il en avait souffert, Joseph. Mais Joseph, il avait aussi appris de lui une chose essentielle, celle qu'il faut dans la vie, qu'il faut absolument la bénédiction de Dieu. Et Dieu le lui avait promise à Jacob, à lui et à sa postérité. Comment pécherai-je contre Dieu ? Il le connaît encore, Joseph, pour avoir fait un jour un choix réfléchi et délibéré, définitif. Il obéirait à l'Éternel. Parce que c'est ce que l'Éternel attendait de son peuple. Il connaît Dieu, Joseph, pour l'avoir finalement lui aussi rencontré. Reprenons cette phrase extraordinaire, « L'Éternel était avec Joseph ». La bénédiction de Dieu, un temps, longtemps, disparu de sa vie, anéanti dans la jalousie, dans la haine, détourné du pays promis, de l'avenir brillant attendu, noyé dans le désespoir de la situation présente d'un esclave à l'étranger. La bénédiction de Dieu, la voilà qui avait ressurgi à cet instant-là, dans cette situation-là, précisément là, dans cette terrible épreuve. Et ce fut bien certainement le premier, Joseph, à en faire la découverte, hein, si les autres s'en sont aperçus. Peut-être bien lui le premier, l'Éternel, à ses côtés. Nous nous sommes questionnés sur Joseph. Quel homme est-il donc à ce moment de l'histoire? C'est une autre question. En nous appuyant maintenant sur son exemple, il nous faut entendre l'écho qu'il nous renvoie. Toi, quel homme es-tu donc? Quelle femme es-tu donc? Joseph est l'homme qui craint Dieu dans son travail. C'est-à-dire que sa fidélité à l'Éternel, il la met en œuvre dans la qualité de son travail, fût-ce dans les plus difficiles conditions. Et je pense que s'illustre ici les recommandations qui seront celles des apôtres aux esclaves de leur époque. Pierre, par exemple, je lis, serviteur, soumettez-vous à votre maître avec toute la crainte qui leur est due, non seulement s'il est bon et bienveillant, mais aussi s'il est dur. Ou bien Paul, aux Colossiens, aux Éphésiens, esclaves, obéissez à tout point à vos maîtres terrestres, de bon gré, parce que vous révérez l'Éternel. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela par égard pour le Seigneur. D'autres ont traduit par fidélité au Seigneur, d'autres encore avec cette expression qu'on connaît bien, comme pour le Seigneur, comme si c'était pour lui. Et Paul termine cette phrase en disant, le maître que vous servez, c'est le Christ. Pas de souci. C'est ainsi que travaille l'esclave Joseph pour un maître qui lui a été injustement imposé. Par respect pour le Seigneur, comme pour lui, l'écho nous revient. Qui es-tu, toi, quand tu te bosses pour ton boss? Un serviteur de l'Éternel? Une servante de l'Éternel? Et si l'exemple vaut pour l'activité professionnelle, parce que c'est la situation dans laquelle se trouvait Joseph, qu'on pourrait donc considérer comme la plus distante dans le domaine des relations. Hein, il y a plus proche que ça. À plus forte raison pour toute autre activité. Et même pour les inactifs. Et les retraités sont concernés, bien sûr. Les vacanciers, tous les gens qui, à un moment donné, sont inactifs. Et depuis le début, c'est-à-dire dès la jeunesse, à l'université, bon, on n'a pas de jeunes aujourd'hui, je leur ai redit ça, ça ne vous concerne plus, à l'université comme pour le Seigneur, et dans nos différents cercles de vie, comme pour le Seigneur, par respect pour le Seigneur, par obéissance au Seigneur. cercle de vie que sont, ben on les connaît. La famille, les plus proches, bien évidemment. Les amis, comme pour le Seigneur. Dans l'Église, on a même envie d'enlever le « comme », hein, en disant « pour le Seigneur d'office ». Joseph est l'homme qui accepte le statut de serviteur et un statut d'intermédiaire entre deux maîtres, deux relations, l'éternel, le maître invisible, et l'autre, évidemment visible, puisque dans notre cercle d'activité, le maître pour Potiphar ou pour quelconque autre relation. Et un intermédiaire nécessaire, on l'a dit. Si dans cette histoire vous enlevez Joseph, tout tombe à l'eau. Hein, Potiphar l'éternel. Un intermédiaire nécessaire pourquoi? Parce que c'est ainsi que travaille notre Dieu. Il veut nous utiliser pour atteindre les autres. En écrivant ça, je ne me suis pas senti spécialement fier de mon propre comportement. Par lui, Joseph, l'Éternel atteindra Potiphar, et Potiphar découvrira l'Éternel. Nous sommes donc, chacun, un moyen par lequel Dieu veut se montrer à ceux que nous fréquentons, un moyen par lequel il veut se faire connaître à eux. Quelle responsabilité! Mais c'est ainsi, et c'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi. Tel est l'écho que nous renvoie Joseph. Ton activité, tes relations, tes comportements expriment nécessairement quelque chose. Traduisent-elles la réalité de la présence de Dieu à tes côtés? Disent-elles l'influence sous laquelle tu as choisi de placer ta vie? Affichent-elles ton choix, la fidélité à l'Éternel? Bien joué, Joseph. Je voulais savoir qui tu es. Tu m'as répondu. Qui es-tu? C'est bien la meilleure question. Nous, le serviteur, à nos côtés, l'Éternel. C'est bien la meilleure équipe. Amen.